Europe 1 Soir Week-end. Pierre de Villeneuve.
Jusqu'à 20h, avec cette question, qu'est devenu l'Iran aujourd'hui ? Histoire millénaire, multimillénaire de ce pays qui a connu des changements dans son histoire. On en parle avec Pierre Palavy. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur adjoint du département des études de la défense et professeur titulaire au Collège militaire royal des forces canadiennes de Toronto. Bonsoir à Christian Palavy. Vous êtes historien, vous êtes tous les deux membres de la famille impériale de Mohammad Reza Pahlavi, dernier Shah d'Iran, et vous signez ce livre chez Perrin, Le pont de la victoire, l'Iran dans la Seconde Guerre mondiale. On parlera de cette époque, effectivement, où il se passe beaucoup de choses, époque resserrée, mais également au sens large. Et puis Yves Maubati, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien spécialiste de la Perse, de l'histoire des religions, auteur de L'âge d'or de la Perse, et également de l'Iran, une histoire de 4000 ans. Mais d'abord, Capucine Patouillet. Bonsoir Capucine.
Bonsoir Pierre.
L'histoire de l'Iran, on ne va pas la résumer malheureusement en quelques minutes.
C'est ambitieux.
Ancien empire perse, vous allez essayer, l'un des berceaux de la civilisation qui remonte à plusieurs milliers d'années.
Oui, puisque les premiers vestiges dateraient du 10e millénaire, mais l'histoire de l'empire perse commence au 6e siècle avant notre ère. La Perse est alors un royaume indépendant, s'étirant de la Grèce à l'Inde et de l'Égypte à l'Asie centrale. Après avoir basculé sous domination grecque dès le 4e siècle avant notre ère, la Perse se convertit à l'islam en 637, conquise par le califat islamique fondé par les héritiers de Mahomet. Elle devient ensuite chiite au 16e siècle face à l'empire ottoman voisin de confession sunnite. En 1925, la Perse devient l'état impérial d'Iran, état monarchique jusqu'en mars 79 et le renversement du dernier Shah, Mohammad Reza Pahlavi. La République islamique est alors proclamée et l'ayatollah Khomeini devient le guide suprême, installant une théocratie chiite en Iran où le pouvoir appartient aux représentants du monde religieux.
Alors quelle est la situation actuelle ?
Eh bien, le régime des mollahs dominé par l'ayatollah Khamenei et le président Ebrahim Raisi impose une autorité morale, notamment aux femmes qui doivent porter le voile. Et c'est le point de départ de la contestation, notamment envers la mainmise de ce régime et la police des mœurs accusée de la mort de Mahsa Amini, arrêtée 3 jours plus tôt en septembre 2022 pour port de vêtements inappropriés. L'autre point de tension, c'est la pauvreté, dans laquelle vit plus de 4 Iraniens sur 10, sous le joug de sanctions économiques depuis la promulgation du régime, et ce malgré les richesses naturelles dont dispose le pays, convoité pour ses ressources, notamment en matière de gaz et de pétrole. Les Britanniques avaient d'ailleurs acheté une concession de forage pétrolier en 1901 pour en bénéficier pendant 60 ans.
Merci de ces précisions. Difficile de résumer l'histoire de votre pays, messieurs Pahlavy. Bon, on a essayé, tant bien que mal. Merci à vous, Capucine Patouillet. Christian Pahlavy, pourquoi est-ce que vous êtes, centré pour ce livre-là, en tout cas, sur cette période de l'histoire qui est la période de la Seconde Guerre mondiale ?
Je disais hier, dans une autre réunion, que ma femme, comme beaucoup de dames, suit des séries américaines et qu'il y en a une qui s'appelle Cold Case. Mm-hmm. C'est un cold case. Hein. On a un peu oublié que l'Iran a été envahi sans déclaration de guerre et occupé pendant la plus grande partie de la guerre mondiale, et que les alliés y étaient tellement à l'aise leurs soldats ont mangé le blé des Iraniens, et que les alliés se sont invités à Téhéran et ont même donné des grandes invitations. La conférence de Téhéran où on a décidé du débarquement en Normandie, ça s'est fait à Téhéran. Et qu'on avait oublié de prévenir le Shah, qui avait 23 ans à ce moment-là, et qui a dit à ses ministres, il se trouve qu'à 81 ans, on a rencontré certains acteurs de cette époque, pas à ce moment-là, mais un peu plus tard. Et le Shah leur dit, écoutez, puisqu'ils ne sont pas venus se présenter, on ira leur rendre visite chez eux. Donc c'est une période qui est très mal connue.
Est-ce que vous diriez qu'à l'époque, les Iraniens avaient le choix entre la peste et le choléra, c'est-à-dire les nazis d'un côté et les alliés, qui, en tout cas les Américains et les Anglais, qui cherchaient surtout le pétrole ?
Voilà, l'Iran est un de ces pays, comme la Pologne, qui ont toujours été coincés entre des hégémonies différentes. Et il faut reconnaître que déjà, durant la Première Guerre mondiale, l'Iran avait été envahi alors qu'elle avait proclamé sous une autre dynastie sa neutralité, car c'est une obsession pour l'Iran de vouloir rester neutre. Or, il est difficile d'être neutre quand tout le monde se bat. On reçoit des mauvais coups et voilà. Je pense que c'était c'était un sujet peu traité ou mal traité ou partiellement traité ou avec des points de vue soit du côté iranien où le Shah Reza, qui était le père du dernier Shah, était franchement considéré comme un agent des Anglais, ou du côté occidental où on le présentait comme une espèce de créature d'Hitler. Donc, alors qu'il, franchement, pas, ce n'est pas notre...
Pour l'avoir bien connu, vous devriez commencer votre phrase par « pour l'avoir bien connu ».
Je ne l'ai pas bien connu, mais je suis né l'année où il... La première nuit que j'ai passée sur Terre,
oui.
C'était à Paris le 15 septembre 1941. Par un hasard extraordinaire, ça a été sa dernière nuit passée à Téhéran. Il a abdiqué le lendemain matin. Il n'a pas dormi cette nuit-là et il est parti vers le sud. Et quand je dis le sud, il s'est retrouvé dans l'île Maurice et même en Afrique du Sud où il est mort. Et je me rappelle avoir été interviewé dans une radio périphérique ici en France, à Paris, et un monsieur iranien, parce qu'on avait invité un monsieur iranien aussi, qui m'a dit, vous savez, monsieur, le docteur Mossadegh a été chassé par les alliés. Et je lui ai dit...
C'était le Premier ministre à l'époque.
Le Premier ministre qui avait nationalisé le pétrole et qui était violemment anti-anglais. Et je lui ai dit, écoutez, vous semblez avoir oublié que les deux Pahlavi, le père et le fils, sont morts tous les deux en Afrique, l'un au nord, l'autre au sud, et qu'ils n'étaient pas des touristes. On les avait tout de même.
Pierre Pahlavi, pour compléter les propos de votre père.
Alors, j'ai aimé votre expression. Est-ce qu'il a dû choisir entre la peste et le choléra ? Reza Shah a surtout essayé de ne pas choisir. Il a essayé de se réserver une indépendance. Il était amoureux de l'indépendance de son pays. Il a brandi son statut de neutralité. Il a fait appel à un autre pays neutre à l'époque. C'est les États-Unis de Roosevelt. Et cet argument n'a pas tenu. Pourquoi ? Parce que l'Iran était le meilleur chemin, le chemin le plus rapide pour acheminer l'aide des alliés en faveur de Staline dans la lutte commune des alliés contre l'Allemagne nazie. Le malheur de l'Iran, c'est finalement d'être un isthme, d'être un pont. Et c'est la raison pour laquelle Churchill donne ce nom à l'Iran, le pont de la victoire. Le problème, c'est que pour les Iraniens, cette époque ne correspond ni à un pont ni à une victoire. L'Iran a été transformé en route. Et c'est une période d'humiliation. Une route d'humiliation.
Yves Bomati, quel regard portez-vous sur cette période resserrée de l'histoire de l'Iran ?
Cette période, pour moi, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense aussi que c'est une revanche des Anglais, puisque eux-mêmes avaient en quelque sorte été malmenés par Reza Shah, puisqu'il avait amenuisé les revenus du pétrole pour eux. Il avait aussi réduit le territoire où ils pouvaient exploiter ce pétrole de près de 40%. Et puis surtout, ils avaient raté leur coup lorsque Reza Shah a pris le pouvoir, puisqu'ils auraient bien aimé imposer quelqu'un d'autre qui soit un peu plus docile à leur...
Quitte à imposer un Anglais.
Absolument. Et Reza Shah, il y a eu quelques dialogues assez piquants sur ce point, a tenu bon et il a véritablement fait une politique nationaliste pour les Iraniens, pour les libérer aussi de nombreuses contraintes religieuses, entre autres, par rapport aux femmes.
Qu'est-ce qui a mené Christian Pahlavi, on va se décaler de 50 ans pratiquement après la Deuxième Guerre mondiale, mais qu'est-ce qui a mené à 30 ans, qu'est-ce qui a mené à cette révolution islamique, l'arrivée de l'ayatollah Khomeini à son exil, à cette façon de s'imposer? Qu'est-ce qui est arrivé?
La convergence de beaucoup de facteurs. Il y a une loi en sciences politiques, c'est l'usure. Le Shah avait régné longtemps et les pétrodollars lui avaient donné les matières à une politique de gloriole, de fierté. Peut-être compensait-il certains complexes. Mais ce qu'il a fait, la faute la plus grave qu'il ait accomplie, c'est la nationalisation du pétrole. Et en 73...
Mais pourquoi il prend cette décision?
Je pense qu'il avait le complexe du docteur Mossadegh dont on vient de parler. Le docteur Mossadegh, vous savez, une chanson de Charles Brassens, quand je pense à Fernande. Les peuples ont une tendance à avoir des sentiments pour certains hommes politiques et pas pour d'autres.
J'ai du mal à vous suivre là pour l'instant, mais on va arriver à la chute, je pense.
Et le docteur Mossader était un homme qui avait été adoré. Alors que le Shah multipliait les réformes, je pense, mais d'autres monarchistes, parce que je suis tout monarchiste, mais je suis monarchiste critique, d'autres monarchistes n'accepteraient pas mon argument. Je pense qu'il n'était pas vraiment aimé. Mais alors, cet homme qui avait ses défauts et ses qualités, mais qui n'avait pas beaucoup changé, a brusquement déplu à ses promoteurs.
Brusquement, Yves Baumati.
Il y a ça, c'est sûr, mais il y a aussi un problème de société. Le dernier Shah donc a permis à la population d'être éduquée de plus en plus, d'acquérir des diplômes. Et il se trouve aussi que les meilleures fonctions ne leur étaient pas atteignables.
Ouais.
Voilà. Et je pense qu'il y a eu là une fracture entre le haut et le bas,
c'est-à-dire qu'il
si
a voulu,
dire, de la population.
Il a voulu malhabilement faire une société presque aristocratique où certains métiers étaient réservés à une forme de noblesse.
Peut-être pas.
Non.
Mais en tout cas, c'est un résultat qui lui a été reproché. C'est que on a parlé de corruption, on a parlé de népotisme, etc. Et si bien que des forces intellectuelles vives ne trouvaient plus leur place dans une société qui avait bougé.
Pierre Palavy.
Oui, je rajouterais un élément qui a trait à des forces beaucoup plus profondes, beaucoup plus anciennes. Yves vient de publier un livre sur l'Iran des Safavides. Je pense que les Iraniens se considèrent fondamentalement comme des Occidentaux. Or, les Occidentaux n'ont jamais accepté que les Iraniens fassent partie du monde occidental. Et il y a une très longue
mais
histoire.
Mais est-ce qu'ils se sentent musulmans aussi?
Oui, mais c'est pas quand on connaît bien. Quand on connaît,
il y a une forme d'islam occidental.
Vous voyez, quand un Français pense à un Iranien, il pense à un musulman avec une barbe, avec un turban. Et il oublie que l'identité iranienne est faite de beaucoup d'autres éléments. C'est un peu réducteur.
On pense au plus facile.
Voilà. On pense à
surtout les jeunes générations.
À l'ayatollah Khomeini, qui a d'ailleurs contribué à arabiser l'Iran. Et ça au mépris de l'âme iranienne. Et il y a aussi ce sentiment d'avoir été trahi par les Occidentaux à plusieurs reprises. Napoléon a donné l'Iran au tsar Alexandre Ier sur le radeau de Tilsit. Reza Shah a été trahi, il a été exilé, Mohammad Reza Shah a été abandonné. Il y a ce sentiment de trahison qui, à mon avis, en 79, se transforme en colère.
Christian Palavy, tout à l'heure, faisait une analogie avec la Pologne. J'ai l'impression que c'est un territoire sur lequel on passe, on s'installe, on se sent assez habilement chez soi, qu'on donne, qu'on troque. Pardonnez-moi, mais où est la glue, où est la colle qui permet de faire à la fois une civilisation, et d'ailleurs elle n'est pas remise en cause, simplement elle s'appelle différemment au fil des, non pas des siècles, mais des millénaires, et en même temps on sent qu'il n'y a pas de stabilité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de ciment qui a coulé, j'allais dire, sur...
Si vous permettez, je rebondirai sur ce que vous venez de dire, vous avez tout à fait raison, les puissances étrangères considèrent l'Iran comme un instrument. Les Chinois considèrent l'Iran de longue date comme un segment sur leur route de la soie. Les Russes, encore aujourd'hui, mais depuis Pierre le Grand, comme une passerelle pour atteindre les mers chaudes, etc., etc.
Mais est-ce qu'il y a un socle de pensée iranienne comme par exemple en Pologne? La Pologne a été partagée pendant des siècles par les Russes, par les Prussiens et les Austro-Hongrois, mais il y a eu ce sentiment polonais qui fait que aujourd'hui c'est à nouveau une grande nation parce qu'elle n'a jamais cessé d'exister. Est-ce qu'il y a ces sentiments-là en Iran également?
Je pense que le chauvinisme.
Ouais.
Je pense que le nationalisme iranien est immense,
ouais,
oui.
Ouais.
Je connais un monsieur qui s'appelle Monsieur Colosimo, qui est
Jean-François
Monsieur Colosimo, dans une conférence à laquelle j'assistais, avait dans sa chute dit les Iraniens vous diront je suis monarchiste, je suis communiste, je suis socialiste, je suis ceci, je suis cela. Ne les croyez pas, ils sont seulement chauvins et nationalistes. Et ça, je crois vraiment que c'est une chose.
Yves Baumati.
Oui, je pense aussi que les Iraniens ont cherché un secours, ont regardé en tout cas vers l'Europe, tout simplement parce qu'ils étaient entourés par à l'époque, au XVIIe siècle en tout cas, par les Ottomans d'un côté, les Ouzbeks de l'autre, qui étaient tous deux sunnites. Donc la nation iranienne s'est faite aussi par le choix du chiisme en 1501, un choix douloureux parce que tous les Iraniens n'étaient pas chiites, il y a eu beaucoup de morts, etc. On les a forcés au chiisme. Mais avant tout, il y a eu une sorte de volonté de regroupement des Iraniens autour d'une idée commune qui a été le schisme et bien d'autres idées, certes. Mais il n'empêche que le fait de regarder vers l'Europe et d'aimer l'Europe, qui a été déçue, bien entendu, et surtout par rapport à ce qu'il ne voulait pas, à savoir les alliances pan-sunnites des Ottomans à une époque.
Alors là, on fait encore un gap parce que l'heure tourne. On est en 2023. On a aujourd'hui un Iran qui est contre un régime. C'est quoi la suite ?
La suite, je suis mal placé pour le parler, mais il me semble que cette révolte des femmes est quelque chose qui s'est déjà produit dans le passé. Elle s'est produite au XIXe siècle, lorsque Tahereh, une poétesse, a enlevé son voile. Elle s'est produite lors de la révolution constitutionnelle de 1906-1907, où il y a eu beaucoup d'assemblées de femmes qui ont essayé de faire bouger les choses. Et puis, les femmes ont été quelque peu libérées en 1935, lorsque Reza Shah leur a permis d'enlever le voile, et puis par Mohamed Reza Pahlavi, qui lui a donné égalité de droit aux hommes et aux femmes à partir de 1960-62-65. Donc, c'est une sorte de serpent de mer qui fait que aujourd'hui, les femmes veulent à nouveau avoir des droits et exister autrement que voilées.
Est-ce qu'un nouveau régime peut arriver par la révolte des femmes, Pierre Pahlavi ?
Je pense que ce régime est irréformable. Le Velayat des Faghi, qui est hérité de l'ayatollah Khomeini, ne peut pas se transformer. Il ne peut pas y avoir de thermidor iranien, ce thermidor que les Occidentaux attendent depuis 30-40 ans et qu'on annonce régulièrement. À la faveur d'un nouveau mollah ou d'un nouvel ayatollah soi-disant modéré, ce régime ne peut pas changer de l'intérieur de lui-même. C'est certain. Et pour le moment, quitte à décevoir beaucoup de compatriotes iraniens, je pense que ce régime est encore très robuste. Ne serait-ce que par ses capacités de contre-insurrection, les capacités de répression des gardiens de la révolution, des Bassidjes.
Et le manque de réaction de la communauté internationale qui ne fait que condamner, mais verbalement.
Absolument, d'autant plus que les Occidentaux se gardent de soutenir les femmes iraniennes par peur de vexer certaines femmes qui, ici en Occident, voudraient vivre voilées.
Et puis il y a les sanctions aussi. Les sanctions économiques contre le pays qui ne fait que l'affaiblir plutôt que de l'aider à s'étendre.
Oui, l'Iran, je pense que le régime khoméniste est un totalitarisme beaucoup plus proche du national-socialisme que du communisme et qui ne pourra s'effondrer que si on l'est complètement écrasé. Le quart d'Iraniens qui soutiennent ne sont pas n'importe qui. Ce sont ce que les Russes appellent les tchorni, les noirs. Ils sont le plus bas. Ils sont le plus bas, ils sont le plus dur. Et ils sont des adorateurs de ce régime, alors que les autres sont des gens civilisés, qui critiquent, qui contestent, qui sont presque des Européens.
Oui.
Hein? Et donc, y a deux peuples. Vous avez en Iran des gens qui sont proches des Pakistanais ou des Libyens.
Oui.
Et vous avez des gens, comme nous, qui pouvons passer pour des Italiens ou des Bulgares ou des Espagnols.
Donc c'est trop différent.
Trop différent. Ouais. Il y a un gap terrible entre ces deux parties de l'Iran et il y aura un combat qui va être terrible.
Vous avez cité la Libye. Mouammar Kadhafi avait dit « Si vous me tuez, vous aurez Al-Qaïda ». Bon, finalement, la Libye n'a pas eu Al-Qaïda, elle a eu Daesh. Bon, enfin, ça revient à peu près au même. Est-ce qu'il y a un risque comme ça aussi en Iran, où si jamais ce régime-là tombe, ça sera un autre régime, mais peut-être encore plus dur, Pierre Pahlavi ?
Je pense que ce changement est déjà en train d'avoir lieu de l'intérieur. Le régime ne tombe pas, mais il est déjà en train de se transformer depuis une dizaine d'années en une dictature militaire. Donc je pense que le danger n'est pas une réidéologisation de l'Iran, mais une militarisation de ce pays sous la coupe des gardiens de la révolution. Et je dirais que sa principale assurance vie, c'est son ancrage avec les pays de l'Organisation de coopération de Shanghai, ses liens de plus en plus développés avec Moscou, avec Pékin, Cette semaine, les liens diplomatiques ont été rétablis avec l'Arabie Saoudite sous la houlette de Pékin. Il y a vraiment un bloc eurasien qui est en train de se développer, qui, à mon avis, assure la longévité de la République islamique.
Merci beaucoup à vous trois. Merci Pierre et Christian Pahlavi. Le pont de la victoire, l'Iran dans la Seconde Guerre mondiale aux éditions Perrin. Merci beaucoup à Yves Beaumati d'avoir été également avec nous pour cette émission passionnante. On aurait voulu parler encore des heures avec vous. Mais le temps nous manque. Demain pour l'information, c'est Léna Hikmoni, 6h-8h pour la matinale d'Europe 1.